Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias. Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu de ce matin de déconfinement presque ?
Au programme de ce vendredi, du sport en direct pour un petit air de monde d'avant, de la musique à la télé et dans une salle de concert avec du public pour encore un petit air du monde d'avant. Et pour finir, l'art de la bonne com dans les médias, dans le monde d'aujourd'hui.
On commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision ?
Après le carton des visiteurs la semaine dernière, les visiteurs 2 ont encore assuré un large succès à TF1. Plus de 6 100 000 personnes ont regardé le film avec Jean Reno et Christian Clavier, soit 25% de part d'audience. Derrière, la série de M6 Why Women Kill continue ses bonnes performances. Près de 3 300 000 téléspectateurs ont regardé ce nouvel épisode inédit. Et la troisième place pour le film Wonder avec Julia Roberts sur France 3, près de 2 600 000 téléspectateurs.
Et puis la question qui intéresse beaucoup le monde politique, quelle audience pour l'intervention hier d'Édouard Philippe?
Il y avait 6 900 000 Français devant leur poste pour regarder les annonces du Premier ministre sur TF1 et France 2. Il faudra attendre 11 heures pour avoir les résultats sur les chaînes info. Et dans le match TF1-France 2, c'est la une qui l'emporte de près de 800 000 téléspectateurs.
Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par la vie qui commence à reprendre son cours. À partir de lundi, la France commencera doucement sa phase de déconfinement et les médias vont peu à peu reprendre leur rythme de croisière.
Oui, doucement, les équipes vont regagner les plateaux et les studios et les émissions reprendre leur forme plus ou moins habituelle. On va en entendre parler au fil des jours. Ce matin, j'avais envie de vous parler d'un cas atypique, la reprise du foot allemand.
Non, monsieur.
La Bundesliga. Car si en France, le championnat a été arrêté, en Allemagne, le championnat va reprendre ses droits à partir de vendredi prochain. Des matchs évidemment à huis clos, mais qui vont quand même marquer le début d'une reprise. Et ce retour du sport en direct a de quoi réjouir beIN Sport, le diffuseur de la Bundesliga, qui va reprendre un peu de ce qui faisait son quotidien avant le confinement. On écoute Florent Houzeau, le patron de la rédaction de beIN. Il nous explique comment tout ça va se passer.
C'est effectivement une bonne nouvelle. On vit quand même une période un peu spéciale depuis bientôt 2 mois avec la planète sport qui s'est un peu arrêtée. Et cette perspective de la reprise du foot, de la reprise du sport en direct et que ça se passe sur beIN, c'est effectivement une bonne nouvelle. Par rapport au 15 mars, il va retrouver du direct, hein, c'est l'essence même du sport à la télé. Le fan de sport apprécie évidemment l'événement en direct et il manquait depuis bientôt 2 mois. Donc c'est déjà l'information principale, le retour du direct sur les antennes de beIN avec dès le week-end du 15 mai, l'intégralité, les 9 rencontres de la Bundesliga. On se met dans la condition, on est à l'antenne 1 heure avant les coups d'envoi, on présente les enjeux et on va remontrer pourquoi en fait aussi et expliquer pourquoi finalement le championnat de football reprend en Allemagne. Donc on regagne nos studios à partir de lundi prochain, évidemment en respectant toutes les consignes et les barrières sanitaires, le fameux mètre 50. Donc évidemment que nos décors, nos plateaux vont nous permettre largement de respecter ces conditions sanitaires.
De nouveau du foot à la télé, c'est déjà un peu de la vie d'avant qui reprend.
Et je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais regarder pour la première fois de ma vie du foot allemand. Cyril, vous vouliez vous attarder ce matin sur un nouveau format diffusé ce soir sur France 2.
Les nouveautés qui touchent à la musique sont rares à la télé et ce que propose France 2 ce soir mérite en effet toute notre attention. Artist & Co, c'est le nom de cette nouvelle émission qui repose sur un concept simple, offrir une carte blanche à un artiste. Durant 1 heure, l'invité principal raconte d'où il vient, ses influences, ses choix musicaux et il chante en direct dans une vraie salle de concert. Ce soir, c'est le Bataclan et devant un public de fans. Forcément, si vous aimez les concerts, ces images vous feront un petit pincement au cœur. Pour parler de ce Artist & Co, nous avons joint Issam Krimi. C'est un homme aux multiples casquettes, pianiste, arrangeur, compositeur. Et il est le coproducteur de cette nouvelle émission. Nous lui avons demandé de nous dire en quoi celle-ci se différencie d'autres émissions de promo.
Ce qui est différent, c'est qu'on est complètement dans un acte de création. C'est-à-dire qu'on donne une carte blanche à un artiste principal et avec lui, on construit toute la musique différemment de ce qu'on pourrait entendre de l'artiste et de ses titres en album ou en live. On la construit vraiment sur l'émission et on construit toute une partie éditoriale avec des invités qui peuvent être différents. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un artiste différent chez Artist & Co, on aura une émission différente. Le format sera toujours le même, avec ce principe d'écriture qu'on a monté avec Quentin Margot et puis cette réalisation de Fred de Ponchara. Mais on aura à chaque fois la surprise parce que chaque artiste a pleinement carte blanche dans ses invités et dans ce qu'il a envie de proposer, quoi.
Et l'artiste à l'honneur ce soir, c'est Ninho.
À toi, mon bébé, à Toi, toi, ma future femme, y aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire, ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un lien. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille.
Lilo, si vous ne le connaissez pas, c'est un des artistes les plus écoutés sur les plateformes de musique en ligne comme Spotify ou Deezer. Le morceau « Lettre à une femme » qu'on vient d'entendre s'est classé dans le top 200 mondial de Spotify. C'est un phénomène rarissime pour un artiste français. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même si Nino n'est pas votre genre de beauté, ce rappeur est aujourd'hui totalement incontournable en France. Issam Krimi nous explique pourquoi il a voulu faire son premier Artist & Co avec lui.
Le rap à la télé et dans les médias dits traditionnels n'existe pas, alors que c'est la première musique en France, et même la première musique maintenant à l'ère du streaming d'un point de vue européen et mondial. Et je voulais qu'on soit pas avec des anciens ou avec des moins connus, je voulais qu'on soit pleinement avec, dès la première, sur ce qu'ils font les artistes d'aujourd'hui. Et il se trouve que Nino a en plus complètement adhéré au projet.
Et voilà donc Nino programmé en deuxième partie de soirée sur France 2, pas forcément là où on attendait un tel artiste. La moyenne d'âge du public de Nino doit se situer dans la vingtaine, quand celle de France 2 est de 56 ans. Mais à en croire le producteur, ce fossé ne pose aucun problème.
Le public a priori de France 2, on le définit sur sa tranche d'âge. En vérité, cette tranche d'âge qui est élevée, c'est une tranche d'âge qui a aussi des enfants et des petits-enfants. Je vois souvent que c'est des gens qui ont une curiosité. Et puis il y a aussi un média qui n'a pas de renouvellement sur son audience jeune, est un média à qui on donne presque une date de mort. Donc c'est aussi tout à l'honneur de France 2 de faire cette démarche à la fois s'ouvrir vers les plus jeunes et à la fois d'avoir des émissions de ce type-là qui peuvent être vues par des gens qui ne connaissent pas Nino, hélas.
Hélas, alors voilà, si vous voulez faire connaissance avec Nino, sa musique et ses influences, c'est ce soir sur France 2 à 23h40. D'autres numéros d'Artist & Co sont à venir, certains devaient même s'enregistrer, mais c'était en avril. Alors, crise sanitaire oblige, il a fallu tout reporter. Les prochaines émissions devraient malheureusement être enregistrées sans public.
On a beaucoup vu les grands patrons du CAC 40 dans les médias au cours de cette crise sanitaire. Et Cyril, vous avez une étude qui répertorie les bons et les mauvais élèves.
Alors, comment bien utiliser les médias en période de crise? Cette question, évidemment, les responsables politiques se la pose tous les jours. Et dans un moment comme nous le vivons, les chefs des grandes entreprises sont aussi forcés de se la poser. Et ça peut être un exercice délicat, d'autant que les Français adorent détester les patrons. Il s'agit donc de se montrer habile. Nous avons demandé à Fabrice Pelosi, directeur au cabinet APCO, qui a publié cette étude, de nous dire comment ces grands patrons se sont emparés des médias.
Les actes d'abord, les paroles après. Ça, c'est le premier enseignement de notre étude. Pour une interview avec un maximum d'impact, il faut faire des annonces fortes. Comme le premier de notre classement, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, c'était sur BFM Business mi-février. Mi-février, ça semble être une éternité. Hein. C'était avant le confinement. Ça, c'est le deuxième enseignement. Pour s'imposer comme un leader dans cette crise, il faut savoir communiquer tôt. Le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, a été le premier à annoncer le lancement d'un fonds de soutien à ses salariés les plus précaires dans C'est à vous sur France 5. Et ça, c'est la troisième leçon. Les meilleurs communicants du CAC 40 ont choisi des émissions grand public à succès, en plus des traditionnels médias économiques. La plus grosse audience, c'est Alexandre Bompard, que vous connaissez bien d'ailleurs, puisque c'est l'ancien patron d'Europe 1. Il est aujourd'hui PDG de Carrefour. Il était aux 20h de France 2 devant plus de 8 millions de téléspectateurs et il a annoncé le versement d'une prime de 1000 euros à ses salariés en première ligne. Efficace.
On a donc beaucoup vu les dirigeants à la télé, à la radio, dans les journaux, mais ils se sont aussi essayés à d'autres médias, les médias au sens large. Fabrice Pelosi nous donne des exemples de ce qui a bien marché.
Les stratégies les plus ambitieuses se trouvent certainement du côté des nouveaux médias et des vidéos en ligne. Stéphane Richard a participé au QG de Guillaume Play sur YouTube depuis son appartement. Ça, c'est clairement un format que beaucoup de dirigeants ne se risqueraient pas à accepter en raison de la modération difficile à gérer. Un pari clairement gagnant pour le patron d'Orange avec une majorité de commentaires positifs et surtout une audience stratégique pour l'opérateur télécom. Et sinon, il y a un mouvement intéressant à noter sur les réseaux sociaux avec la crise. Comme sur les médias traditionnels, nous voyons de plus en plus de coulisses. En raison du confinement, il faut être encore moins formel qu'habituellement sur les réseaux sociaux pour créer de l'engagement. On a notamment pu voir Patrick Pouyanné, le patron de Total, avec son masque et entouré de ses équipes, une manière de montrer l'exemple et d'incarner l'image d'un dirigeant responsable et sur le terrain.
Des dirigeants responsables et que le coronavirus aura fait s'essayer aux nouveaux médias au moins un bénéfice à tirer de cette crise sanitaire.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Culture Média continue évidemment avec dans un instant notre info média du jour. Nous serons avec Philippe Chetwin, le directeur de l'info de l'agence France Presse. Il va nous expliquer comment les 200 bureaux de l'AFP ont dû se réorganiser avec le coronavirus partout dans le monde.
Culture Média, Philippe Vandel.
En ces temps de coronavirus, les journaux qui ne peuvent pas ou plus envoyer des reporters s'appuient plus que jamais sur le travail de l'AFP, l'agence France Presse. Oui, mais alors, comment fonctionne l'AFP elle-même? Dans un long billet de blog, Philippe Chetwin, le directeur de l'info de l'agence, raconte les coulisses et s'interroge. Comment remplir la mission d'informer quand l'épidémie de coronavirus bouleverse les vies de chacun des 2400 employés de l'agence? Comment continuer à assurer un journalisme d'excellence à l'ère de la distanciation social. Je ferme les guillemets. Depuis, il a dû trouver la réponse. Justement, il est avec nous. Bonjour Philippe Chetwind.
Bonjour, bonjour.
Je posais la question que tout le monde pose, mais cette fois-ci, elle est pertinente. Est-ce que, de mémoire de journaliste, vous avez vécu des crises comparables en termes de couverture journalistique? Évidemment, parce que vous, il vous est arrivé de couvrir des crises comme celle du SRAS ou d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Est-ce qu'il y a un précédent?
Je pense en termes d'ampleur d'histoire, le seul précédent c'est peut-être les événements de 11 septembre où c'était vraiment un sujet monotone pour un mois, deux mois, trois mois. Ouais. Mais là, cette histoire c'est vraiment quelque chose qui touche tous les pays du planète et tous nos journalistes. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Et c'est pour ça que je pense non, c'est vraiment différent cette fois-ci.
D'accord. Je dis ça parce que il y a quelque chose que je ne supporte plus. C'est pas du tout vous que j'incrimine. C'est dans les reportages à la télé. Chaque fois qu'il y a des gens, ils disent est-ce que vous avez déjà vécu ça? Les gens ils disent bah non. Voilà. Ça fait juste trois mois qu'on entend ça et je commence à plus en pouvoir de cette question. Non, on n'a jamais vécu ça. Alors pour qu'on mesure bien la force de l'AFP. Combien de journalistes y travaillent? Combien de bureaux dans le monde? Dans combien de pays êtes-vous présent?
Il y a à peu près 1700 journalistes à l'AFP autour du monde. Ouais. On travaille dans 200 bureaux. On a effectivement un bureau dans presque chaque pays du monde. Et dans certains gros pays du monde, comme les États-Unis, 5 ou 6 bureaux. Alors notre boulot, c'est vraiment de couvrir la planète entière. Dans la mesure du possible.
À cause de la loi des grands nombres, on imagine bien que sur 2400 employés, certains ont été touchés par le virus. Je me trompe, je me trompe pas?
Oui, absolument. Je pense que nous sommes autour d'une 80 personnes touchées jusqu'ici. Personne grave, ça c'est quelque chose qui est pas bien. Et moi-même j'étais aussi touché juste au début de la crise. Ouais. C'est pour ça que j'ai perdu les deux premières semaines de la crise. Mmh. Ça c'est juste quelque chose que vive toute la rédaction de l'AFP.
Vous avez été touché, vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous êtes resté chez vous?
Non, j'étais resté chez moi. C'était vraiment au début de la crise et c'était vraiment exactement la situation de beaucoup de personnes en France à ce moment-là.
Comment avez-vous fait techniquement pour que vos journalistes continuent à travailler sans se mettre en danger?
Il y a deux choses. Je pense immédiatement, on a essayé de faire le maximum de télétravail. Alors, clairement, ça, c'est assez facile pour les reporters ou les journalistes de photos, etc. Des choses qui sont assez légères. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Mm-hmm. La complexité, c'était vraiment de mettre en place les systèmes d'édition pour la vidéo, pour la photo. Et ça, c'était beaucoup plus complexe. Et on nous a surpris d'être capable de le faire aussi rapidement qu'on l'a fait.
Ouais, d'accord. Ça, on comprend. Oui, allez-y. Pardon? C'est ce qu'on appelle le back-office. C'est les gens qui sont au bureau, qui reçoivent les reportages. On comprend que ça peut se faire de chez soi. Mais alors, comment ça se passe pour vos reporters sur le terrain? Comment se sont-ils adaptés?
Ça, c'était la chose le plus délicat. Je pense que ça frappe les individus d'une manière différente chacun. Mmh. Et une chose qui était extrêmement importante dès le début, c'est tous les reportages dans des zones difficiles, c'était sur la base de volontariat. Ouais. On ne force personne de sortir dans ces conditions. Après, la deuxième condition, c'est vraiment d'être sûr qu'on a tous le bon matériel de vraiment protéger nos journalistes dans des zones difficiles, dans des hôpitaux, ou même juste dans le public, là, assez de masques, assez de combinaisons, etc. Et ça, c'était un gros boulot de logistique fait avec nos bureaux autour du monde, notamment la région Asie qui a beaucoup aidé tous les autres bureaux du monde en trouvant beaucoup de choses comme des masques, etc.
L'AFP produit beaucoup d'images et de plus en plus d'images vidéo. On a vu beaucoup d'images de drones qui prenaient de la hauteur. Vous avez des drones vous-même à l'AFP?
On a des drones vraiment partout dans le monde maintenant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans les derniers 2 ou 3 ans. Mmh. Et c'était vraiment très adapté à ce gros changement qu'on a vu dans la vie des grandes villes du monde, ouais. qu'on s'est vu vider complètement pendant le confinement. Mmh. Et ça nous a donné des images assez spectaculaires des gros monuments des grandes villes du monde, comme à Paris, New York, etc.
Est-ce que vous avez dû renoncer à couvrir certains sujets par mesure de sécurité ?
Je pense pas beaucoup, parce qu'on avait vraiment tous les stocks de combinaisons, de masques, etc., ouais. dont on a besoin. Mais chaque fois, je pense qu'on a posé vraiment des questions difficiles chaque fois pour dire est-ce que vraiment ce reportage ou cette histoire est nécessaire. Mmh. Je pense qu'on l'a attaqué un peu comme la même manière dont on attaque les questions de couvrir une guerre, une vraie guerre.
Ouais.
C'était important de ne pas faire pression sur nos journalistes de faire quelque chose.
Et puis il y a des sujets que de fait n'ait pas pu couvrir, non pas parce que c'était un choix, mais parce que c'est la réalité. Ce sont les événements sportifs totalement à l'arrêt. On n'imagine pas, mais pour l'AFP, c'est une grosse perte.
Je pense que c'était très difficile pour nos journalistes de sport. En fait, l'agenda de l'agence est vraiment rythmé par les événements sportifs. Et l'effondrement juste de tous les calendriers de foot et rugby et autres autour du monde a créé une énorme vide. Ceci dit, il y a beaucoup de travail après. Pour comprendre ce que se passe, ce que va se passer. Mais maintenant, ouais. Il y a des gros papiers, analyses sur la reprise de foot en
Allemagne,
en Angleterre. Mmh.
Mais c'est
aussi
c'est...
beaucoup.
Le sport, c'est combien pour qu'on situe ? C'est quelle part du travail de l'AFP ? Et des revenus?
Peut-être entre 30 et 40% de toutes nos dépêches et toutes les images. Et c'est clairement quelque chose qui est extrêmement important pour nos clients autour du monde.
D'accord. Vous allez envoyer, puisqu'on en parlait ce matin dans le journal de Cyril La Carrière, le championnat de foot, la Bundesliga, va reprendre avec des matchs à huis clos. Huis clos, ça veut dire avec ou sans photographe au bord du terrain?
En ce moment, on est encore en discussion avec les autorités sportives pour comprendre quelles et exactement les conditions dans lesquelles les médias peuvent travailler. Pour nous, c'est extrêmement important que les médias soient pris en compte dans toutes ces discussions et qu'il y a une capacité pour les médias d'être présents sur le terrain et dans les tribunes, naturellement, dans une manière qui est en toute sécurité.
Évidemment.
Et c'est pas complètement fini, c'est pas complètement abordé.
On va suivre cette histoire, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Philippe Chetwin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information à l'AFP.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Philippe Chetwin, directeur de l'information de l'AFP, l'agence France Presse, en ces temps de coronavirus, les journaux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus envoyer des reporters s'appuient plus que jamais sur le travail de l'AFP. Oui, mais comment l'AFP fonctionne-t-elle elle-même ? Vous êtes en train de nous répondre, Philippe Chetwin, et vous avez également constitué à l'agence une énorme base de données qui permet de suivre en temps réel l'évolution de la pandémie. Racontez-nous.
Oui, on a trouvé dès le début de cette crise, c'est vraiment une histoire qui est écrite autour de data. On a vraiment des atouts à jouer parce que dans chaque bureau de l'AFP dans le monde, on a la capacité de chercher les data des autorités locales et de constituer une base de données globale qui nous donne des chiffres sur les morts, les quantités de personnes, confinement et tous les différents chiffres de cette histoire. Et ça nous met dans une position de sortir des infos plus rapidement que parfois les autorités globales et que nos compétiteurs.
Mmh. Alors justement, à propos de chiffres, leur véracité ou non, vous faites également un énorme travail sur le fact-checking, la vérification des faits en bon français. Combien de fake news avez-vous déminé ? Ou autre question subsidiaire, quelle est la fréquentation de votre site de fact-checking qui est factuel.afp.com ?
ça commence à grandir tout le temps. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près 800, 900 Amphox qu'on a débunkés autour du monde. On a une équipe en total de fact-checkers de presque 80 personnes qui travaillent dans une quinzaine maintenant de langues. Et on a vu énormément de trafic vers notre site web. Je pense que dans le mois de mars, on a une audience qui était le même que toute l'année dernière.
Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est une fake news ou non. Le président Trump a assuré que le virus avait été créé en Chine, dans un laboratoire de Wuhan. Est-ce que vous avez pu enquêter sur place dans le labo ou est-ce que là-bas, tout est verrouillé?
Non, on n'a pas réussi à enquêter sur place dans le labo. On a réussi à être présent à Wuhan pendant tout le mois de janvier. Et depuis un mois aussi, on est installé à Wuhan pour faire beaucoup de reportages dans les marchés, avec les résidents dans les hôpitaux, etc. Bien sûr, ça nous apporte beaucoup de contexte autour de cette histoire, mais on n'a pas réussi à répondre à cette question.
Voilà ce qu'on voit, que là, c'est très difficile de répondre à cette question, puisque l'information n'est pas véhiculée par un petit site internet complotiste. Vous allez me dire que le président Trump est peut-être complotiste. En tout cas, c'est le chef d'État du premier pays du monde. D'une manière générale, comment travaillez-vous en Chine? Est-ce que les autorités là-bas vous laissent travailler? Est-ce qu'il y a un avant et un après la crise? Est-ce que la situation a évolué sur place par rapport aux médias?
On a trouvé, c'était intéressant parce qu'au début de la crise à Wuhan, nous étions surpris que on avait pas mal de liberté à travailler à Wuhan. C'était assez rare en Chine où souvent, notamment dans des situations sensibles, on a pas mal de pression des autorités. Et vraiment dans ce premier mois, en janvier à Wuhan, on était vraiment assez libre à faire ce que nous voulons faire. Clairement, dans les mois qui ont suivi cette crise, les autorités ont vraiment essayé de contrôler, notamment pas juste les journalistes, mais aussi la population. Et clairement, c'est beaucoup plus difficile maintenant à voyager, à avoir accès aux hôpitaux, des endroits sensibles.
Vous voulez dire que les autorités chinoises se sont servies du prétexte de confinement pour également bloquer les journalistes?
C'est toujours difficile de travailler en Chine. Il y a une machine qui rend la vie, notamment des journalistes étrangers, pas toujours facile. C'est peut-être plutôt un retour à la situation normale.
Et alors maintenant, on va revenir en France, à Paris. Comment vous avez organisé le travail à votre siège parisien? Combien de journalistes sur le terrain? Combien en télétravail? Comment vous vous êtes disposé, réorganisé?
Alors, depuis peut-être mi-mars, normalement, il y a peut-être un millier de personnes qui travaillent à notre siège à Place de la Bourse en total. Et depuis un mois, il y a à peu près entre 30 et 40 personnes dans ce bâtiment. Et ça inclut vraiment les gens de sécurité. Peut-être il y a juste une vingtaine de journalistes qui fait des fonctions clés, qui sont basés là-bas. Et le reste du monde est vraiment en télétravail. On utilise les mêmes applis que je pense la plupart des sociétés en France utilisent, les Zoom, les Microsoft Teams et autres.
Ça dépend, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous avez une équipe continuité, c'est bien ça? Une équipe technique qui ne fait que ça, faire en sorte que tous les équipements fonctionnent.
Oui, on a une petite cellule. Je pense que une chose qu'on a bien fait, c'était vraiment assez tôt. Peut-être on a de la chance parce qu'on a toutes les leçons qu'on a appris en Asie en janvier et février. C'est pour ça qu'on a constitué une équipe de continuité, une espèce de cellule de crise assez tôt en mars, qui nous a aidé beaucoup de gérer le confinement en France et en Europe.
Merci beaucoup Philippe Chetwin de ces informations, de ces éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information à l'agence France Presse, qui continue son travail formidable partout dans le monde pour la radio, la télévision, évidemment la presse écrite. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. Nous serons avec l'animateur Bruno Guillon pour la grande soirée du bêtisier. Et pour l'avoir vu, évidemment, je peux vous dire que c'est parfois irrésistible. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis le comédien Bruno Solo pour la pièce L'Heureux Élu. Sera demain soir sur France 2 en partenariat avec Europe 1. Même sans ça, on l'aura invité. Nos indispensables, Laurent Marion va nous donner des recettes faciles à faire. En fait, on va boire des coups. Et puis une série avec un casting international 5 étoiles. Ce sera avec Margot Barallon.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et nous serons dans 11 secondes avec Bruno Guillon pour la grande soirée du bêtisier. Il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis le comédien Bruno Solo. Nos indispensables du jour, une série au casting impressionnant et de la cuisine qui se boit facilement.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Bruno Guillon.
Bonjour Philippe, ça va bien ?
Ça va très très bien, et vous-même ?
Eh bien, en pleine forme, au travail, on se vit, mais un peu comme vous.
Voilà, une fois n'est pas coutume, j'ai pu vous voir ce matin, je vais dire pourquoi. Vous avez une triple actualité, les amours, il y a votre matinée à la radio sur Fun, on le cite une fois, comme ça on est débarrassé, mais qui est maintenant également à la télé sur W9, voici pourquoi je vous ai vu avec votre sweat capuche de jeune. Et puis surtout, demain soir, l'émission, la grande soirée du bêtisier sur France 2. Alors, normalement, un bêtisier, c'est soit pour les fêtes, soit un bouche-trou. Là, j'ai vu le programme, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas Noël, et ça ressemble vraiment pas à un programme au rabais. Je le dis, comment les équipes ont-elles travaillé ?
L'avantage de cette période de confinement, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps devant un écran pour dérocher des images. Ça a été le cas des documentalistes de France 2 qui ont fait un boulot de dingue, parce que la promesse, en fait, c'était... Le problème du bêtisier, c'est qu'on se dit « Ah bah ok, bah, on va avoir les mêmes images qu'on voit d'habitude ». Et donc, en fait, la promesse de ce bêtisier, c'était « Et si on faisait enfin un bêtisier où on aurait un maximum d'images inédites ?» C'est ce qu'on a réussi à faire. Et la promesse du bêtisier de demain, c'est que 70% du programme, ça sera la première fois que les téléspectateurs verront ces images. Et après, on a bien entendu gardé un peu moins de 30% d'images cultes, parce que voilà, il y a des images qui, de toute façon, ne feront toujours rien ou pourront toujours nous émouvoir. Mais non, on a plus de 70% d'images inédites, ouais, demain.
On va entendre vos premiers mots dans l'émission.
Bonsoir et bienvenue sur France 2. Bienvenue dans cette grande soirée du bêtisier. Alors, j'espère que tout va bien chez vous en cette période forcément compliquée pour nous tous. D'ailleurs, ce soir, on respecte les règles du confinement pour ce tournage. La preuve, je suis en studio, mais je suis seul.
Et vous êtes dans une régisson, tout seul. Et je vais vous dire, en fait, ça fait presque de l'air frais de ne pas voir ces applauds, ces grands décors qui sont toujours les mêmes pour annoncer un chat qui tombe au ralenti. C'était pas plus mal.
Oui, en fait, c'est pas vraiment nécessaire pour un bêtisier d'avoir du monde. Mais après, voilà, c'est un peu une ère nouvelle à la télévision qui débute avec, ouais, avec cette période qu'on vient de vivre. Donc, de toute façon, ça fait partie, voilà, des habitudes qu'il va falloir prendre. C'était bizarre, voilà, d'être seul dans un studio avec une caméra. C'est la première fois que je le faisais, mais voilà, oui, c'est un pli à prendre, parce qu'après, je sais que pour les autres émissions, voilà, le public, ce sera exactement la même chose. Il va falloir respecter les distanciations sociales et tout ça. Donc, ça va être une nouvelle façon de faire de la télé, ouais.
Alors, le programme commence par une série de lapsus, je vais le dire, assez irrésistible. Alors, mesdames, messieurs, les auditeurs, vous allez entendre dans l'ordre, parce que c'est pas des petits noms, c'est que des gros noms. Alors essayez de mémoriser. Ne dites rien, Bruno. Vous allez entendre dans l'ordre. Nathalie de Rinxin, Maxime Switek, qu'on a bien connu ici à Europe, Sophie Davant, Jean-Pierre Pernaut, une présentatrice de la télé belge dont j'ignore le nom, j'en suis désolé, Charlotte Gainsbourg en couple avec Yvan Attal, ils sont ensemble, et enfin Faustine Bollaert, Florilège.
Allez, 8h12, tout de suite un nouveau journal avec Nathanaël de Rinxin. Pardon pour le retard de 15 secondes.
Mais attendez, c'est un plaisir.
La une ce matin ?
Eh bien, la nuit.
La une.
C'est une des vidéos les plus vues au monde ces dernières semaines. Un match de foot. Un match de foot.
Oh non. Il y a aussi l'usure du quotidien, l'usure du couple. Ouais.
Oh l'usure du couple. Enfin, on est là-dessus. Oh non. C'est dur d'enchaîner.
Il y avait une très jolie fête ce week-end à Montbrison. C'était la fête de la fourme dont on est si fier là-bas. Dans la Loire, Christophe Pizine.
Il y a davantage de postes à pourvoir que d'habitude, et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout.
Au moment où le film commence, on est tous prêts à péter.
Un plomb, pardon.
La question peut-être, c'est quel est son idéal de femme ?
Alors, quel est votre idéal de fesses ?
De femme.
De femme. Pardon.
Écoutez, je me marre encore comme un imbécile, alors que j'ai choisi les extraits que j'ai entendus le montage ce matin. C'était Faustine Bollaert et son idéal de fesses. Est-ce que vous avez prévenu les impétrants ? Est-ce qu'ils sont au courant ou pas ? Est-ce qu'il y a des potes à vous qui ont dit « Tu vas voir, tu vas passer le... »
Non, j'ai prévenu personne. Voilà, je le dis. Non, mais il y a des séquences. Anne-Elisabeth Lemoine, voilà, et en termes de bêtisier, nous a fourni beaucoup de contenu.
Il y a même une séquence. Il y a même une séquence d'elle, uniquement consacrée à elle. Et je dois le dire aussi, c'est récent. On voit le moment de l'émission quand C'est à vous est en duplex avec Quotidien, dans lequel Babette Lemoine, qui pense qu'elle n'est plus à l'antenne, les traite de cotipute. Vous avez remis ça dans le bêtisier.
Bien sûr.
Vous avez une séquence préférée ?
J'aime bien ça, moi. Justement, la série sur Anne-Elisabeth Lemoine, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce passage-là avec Barthès.
Alors, il y a aussi des pépites plus anciennes. Vous avez dit, il y a vraiment des golds, on pourrait presque dire, en matière de bêtisier. Mais aussi, vous avez trouvé des séquences de l'École des fans de Jacques Martin. Des séquences qui, pour moi, n'étaient pas des séquences qu'on a vues 50 fois dans 50 bêtisiers. Moi, je ne les connaissais pas, ces deux séquences. Alors, peut-être qu'elles sont connues, mais en tout cas, pas de moi. Et avec une thématique pas du tout politiquement correcte, un thème désormais totalement interdit ou alors avec 1000 pincettes à la télévision, l'alcool. Écoutez, c'est la question de Jacques Martin à une petite fille qui parle de ses parents, puis après il pose la même question un peu de choses près à un petit garçon.
Pourquoi il s'appelle Freddy ?
Freddy ?
Oui !
Qu'est-ce qu'il fait comme métier ?
Gendarme, et il en a 2-3 gendarmes qui sont ici dans la salle.
Ah, il est gendarme, Freddy ?
Oui, mais aussi les autres gendarmes à la gendarmerie, ils boivent quelquefois des pintes.
Ils boivent des pintes à la gendarmerie ?
Ils sont des buveurs.
Ah, c'est des buveurs, hein ? Il boit de l'eau ou du vin ?
Du vin.
Ah, j'en étais sûr, c'est un copain à moi. Combien il boit par jour ?
Ben, 1, 2, 3 litres.
Ah, ça va ! 3 litres par jour ! Autant que deux chevaux, dis. Toi, tu bois pas de vin ?
Non,
je bois
du sirop.
Ah, tu bois du sirop. Maman boit du vin un peu ?
Oui, un petit peu.
Combien de litres ?
Ah bah, c'est pareil que lui.
C'est quand même génial. Vous connaissez le proverbe ? Après 3 litres, c'est de la gourmandise.
Oui, c'est ça.
Alors, je l'ai dit, j'adore ce que je vous entends vous marrer encore. Et c'est vrai que les extraits sont vraiment savoureux.
Oui, mais parce que moi, je trouve ça super touchant. Voilà, c'est croustillant et on a tellement besoin de ça dans cette période, voilà, qui est tellement un peu glauque, que voilà, ça fait du bien, en fait.
Alors, je l'ai dit, Bruno Guillon, ce bêtisier n'est pas politiquement correct. Vous avez retrouvé une séquence de Blanche Gardin, l'humoriste, à la cérémonie des Molières. Et Dieu sait s'il y a un endroit où règne le politiquement correct, c'est bien dans le monde du théâtre. Et donc, forcément, à la cérémonie des Molières qu'on ait sa cristallisation. Là, on va entendre Blanche Gardin qui remet le prix du meilleur spectacle comique et elle détaille qui sont les personnes susceptibles d'obtenir le trophée, dont elle. Non seulement, vous allez voir, il faut oser dire ça, mais il faut également oser le rediffuser.
Alors, si on regarde la liste des nommés pour ce Molière de l'humour, on a un noir, on a un arabe, on a un réunionnais, on a une femme. Alors, ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme. Voilà. À moins que tu sois pédé. Ah donc, dans ce cas-là, peut-être. Et le Molière est attribué... Attends, je le savais, c'est moi.
Faut oser dire ça quand même, hein, sur les Arabes, les Réunionnais, les femmes, les pédés, les Noirs, c'est juste dingue. Et c'est bien aussi de leur passer. Blague à part, vous savez que la direction de France Télévisions où vous travaillez ne veut plus d'une télé de mâle blanc de plus de 50 ans. Et alors, il faut vous dépêcher, Bruno Guillon, il vous reste 1 an et 2 mois. Vous allez voir 50 ans le 25 juin 2021.
J'optimise, vous en faites pas, j'optimise.
C'est vrai. Vous profitez bien de votre année.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Bruno Guillon, qui va présenter la grande soirée du bêtisier demain soir sur France 2, mais votre actualité télé principale, c'est Les Amours, que vous présentez tous les jours à 11h30 sur la 2 également. Où est-ce que vous en êtes avec le confinement ? Vous avez du stock pour tenir combien de temps ? Avez-vous du stock d'ailleurs ? Où êtes-vous déjà
On n'a plus de stock, on est passé en rediff depuis une dizaine de jours, puisque on devait attaquer les nouveaux épisodes au démarrage de la période de confinement. Et donc là, on a calé les futurs tournages. Donc, on recommence à tourner d'ici une dizaine de jours.
D'accord.
Donc, comme je le disais, ça va se tourner sans public. Et puis là, pour les premiers invités, ce seront des invités qui sont dans un périmètre de 100 km autour de Paris. Voilà, on va tout faire pour respecter les directives de l'État.
Ce sont des émissions qui ont été tournées quand, celles que vous passez en rediff ?
Alors là, du coup, c'est un best-of. En fait, on se dit que l'avantage des amours, c'est que c'est pas daté, il n'y a pas de candidat qui revient le lendemain en cas de gain, etc. Donc on s'est dit, bah, on va prendre les meilleures émissions depuis, ça fait 2 ans maintenant que je suis au reine de l'émission. Donc voilà, on a pioché un peu dedans.
D'accord, non, mais moi je pense à eux et je me dis que ça va peut-être être très douloureux de se revoir, parce que peut-être qu'ils ne sont plus ensemble.
Peut-être qu'à cause du confinement, ils ne sont plus ensemble, c'est vrai.
Autre actualité, vous allez être dans le nouveau Interville, produit par Nagui, présenté par vous-même, Valérie Beg et Olivier Mine. Les tournages qui étaient prévus en avril ont été évidemment reportés. Est-ce que vous avez du nouveau de la prod? Vous allez tourner quand cet été? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Là, très honnêtement, je n'ai pas de nouvelles particulières. Je ne pense pas... Mais là encore, je vous dis ça en mon nom, que ce soit prêt pour cet été. Je pense que ce sera plus pour l'année prochaine, puisque de toute façon, avec la distanciation sociale et tout ce qui va avec, ça me paraît assez compliqué de faire une émission dans le type d'Interville pour cet été.
Et vous n'étiez pas totalement au point aussi, non?
On n'était pas totalement au point. Bah si, on était au point sur sur l'endroit, sur tout ça. Mais après, voilà, on était en phase de travail, en tout cas, c'est sûr.
Parce que selon Benoît d'Aragon, qui est généralement très bien informé dans Le Parisien du 5 mars, le coronavirus a bon dos, écrit-il, car la vérité, c'est qu'il n'était pas prêt du tout. Il cite un connaisseur du dossier. En effet, les civils appelés à s'affronter n'avaient pas encore été choisis et les lieux de tournage sont toujours en discussion. C'était le 5 mars, là, tout est calé. Vous connaissez les civils choisis maintenant?
Alors, je peux vous dire que le lieu était déjà choisi, on avait déjà les épreuves parce qu'on avait commencé à travailler dessus, et oui, il y avait déjà une shortlist de listes qui avait été sélectionnée. Après, pour être beaucoup plus précis dans les choix, c'est directement au producteur, à savoir Nagui, qu'il faudrait s'adresser. Ouais. Mais je peux vous dire qu'on était beaucoup plus avancé que ce que laisse suggérer votre collègue.
Et puis, on est en France ici, vous savez, la décision de Nagui a fait polémique, parce qu'il ne voulait plus de vachettes. Ce qui est formidable en France, c'est que s'il y a eu des vachettes, ça aurait également fait polémique avec le camp d'en face. Il y aura ou il n'y aura pas des vachettes? Moi, c'est l'info que je voudrais savoir.
Là, pour l'instant, de toute façon, la polémique sur les vachettes, voilà, pour l'instant, nous, on a travaillé sur une version où il n'y a pas de vachettes. Autre temps, autre mœurs. Voilà, on a une version d'Interville qui a évolué. Et voilà, aujourd'hui, la cause animale me paraît être dans l'air du temps. Et très honnêtement, sur toute la partie travail qu'on a fait sur l'émission, sur les épreuves, etc., c'était pas un manque flagrant. Quand les gens disaient tout le sel d'Interville reposait sur les vachettes, j'ai envie de dire, non, ça reposait aussi sur l'animation des différents protagonistes d'Interville, soit la vieille version avec Guy Lux et Léon Zitrone, soit les versions qui sont arrivées après. Toutes les épreuves tournaient pas autour des vachettes, on avait une, voire deux, et après, c'était beaucoup d'autres choses. Donc, moi, honnêtement, ça me dérange pas, vraiment.
Alors, vous avez participé, Bruno Guillon, à l'émission de TF1 Star à Nu. Je rappelle le principe, 15 personnalités, hommes et femmes, pas dans la même émission. Il y avait 7 hommes et 8 femmes, donc, qui avaient accepté de se déshabiller totalement sur la scène du Lido, devant 1000 personnes, et aussi à la télé, pour sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate et des testicules. Vous allez voir pourquoi je vous pose cette question maintenant. Parce qu'Arthur vous a dit, Arthur c'était le producteur, il vous a dit, tu as 4 mois pour maigrir. Je voudrais savoir comment ça se passe le régime avec le confinement.
Mais alors, vous voulez que je vous dise, c'est drôle parce que quand Arthur m'avait dit ça, quand on a tourné Star à Nu, je n'ai jamais été aussi gros de toute ma vie. C'est-à-dire que je me suis affiché avec mon surpoids le plus fort parce que je m'étais dit, voilà, je ne vais pas mentir aux gens, je n'étais pas dans une phase où j'avais envie de perdre du poids, donc je me suis présenté tel quel. Ouais. Mais par contre, là, aujourd'hui, depuis cette période et ce tournage, j'ai perdu une dizaine de kilos. Donc bizarrement, moi, le confinement, je l'ai mis à profit pour faire gaffe.
Formidable.
Donc, j'ai plutôt maigri en fait.
D'accord. Et je vous posais la question que tout le monde se pose. Il vous en reste combien encore à perdre alors?
Ce serait bien. Si je pouvais en perdre encore 5 ou 6, ce serait top. J'en ai déjà perdu une dizaine. Voilà, encore 5, ce serait parfait.
Comment ça se passe le confinement? Vous ennuyez? Vous ennuyez pas? Vous allez déjà à la radio tous les matins?
J'ai eu cette chance de continuer à être sur le pont à la radio. Donc moi je faisais mon émission de radio sur Fun tous les matins entre 6h et 10h. Mine de rien, ce fait de sortir et d'avoir une vie sociale en plus de la vie à la maison, c'était assez agréable. Et après c'est facile de parler de confinement. Moi, j'ai conscience d'être privilégié. J'habite pas à Paris. J'habite en banlieue parisienne. J'ai la chance d'avoir un jardin. Donc on n'est pas tous égaux devant le confinement. Donc, ça m'a permis de profiter de mon fils, voilà, de 11 ans, de vivre des moments que j'aurais pas vécu forcément et de se recentrer sur les choses essentielles de la vie, en fait.
Exactement. Et de résister à l'appel du frigo. Merci beaucoup, Bruno Guillon. Je rappelle l'émission à la grande soirée du bêtisier. Ça sera demain soir sur France 2. Et les amours, vous pouvez vérifier si les couples tiennent toujours. C'est tous les jours de 11h30 sur la 2 également. Merci d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci Philippe. Bon week-end.
Bon week-end à vous.